Ce balado vous est présenté par les Sentiers Magnus Poirier, un concept unique en son genre situé à Prévost dans les Laurentides et par station7.ca. Bonne écoute. Écoutez les grands entretiens, un balado du Salon des aînés de Saint-Jérôme en compagnie de Stéphanie Salomon et Guillaume Ladon. Aujourd'hui, un grand entretien avec la communicatrice et sexologue Justine Robert.
C'est la chanson que je nous chante. Serons-nous deux vieilles amantes? Resterons-nous tendres complices de mes manies, de tes caprices? Dans le secret d'une maison, le château fort de nos saisons.
Vous avez probablement reconnu cet extrait musical. Bien évidemment, il s'agit de Deux vieilles de la grande Clémence Desrochers, qui est un émouvant poète qui raconte l'histoire d'amour entre deux femmes. Puis vous allez voir, cet extrait n'est pas anodin puisqu'il se prête très bien avec la teneur de la grande entrevue que je m'apprête à réaliser avec ma prochaine invitée, qui est une communicatrice, une socio-philosophe, une sexologue hors pair très connue au Québec, mais aussi en Europe. Depuis une dizaine d'années, elle a rencontré des milliers d'adultes de 50 à 100 ans lors de ses conférences. Elle a publié une quinzaine d'ouvrages à succès, que ce soit des essais, des romans, des livres pour jeunes qui ont été également traduits en plus d'une vingtaine de langues. Si elle est surtout reconnue pour ses écrits sur la sexualité des enfants, elle vient tout juste de publier un livre « Cri du cœur » où il est question des vieux et des vieilles, comme elle le dit si bien. Elle dénonce avec véhémence toutes les formes d'agisme ambiant. Vieillir avec panache, donc son 15e ouvrage publié aux éditions de l'Homme, constitue un petit manifeste pour en finir avec les euphémismes, les néologismes qui enrobent, camouflent et contournent le vieillissement d'une personne. Il a été écrit en plein cœur de la première vague de la pandémie, devant son impuissance face à la gravité de la crise sanitaire qui a secoué le monde entier dès 2020 et qui a violemment touché les milieux de vie pour personnes âgées au Québec. Elle s'est mise à écrire sur le sort que nos sociétés réservent à ses plus vieux. Aujourd'hui, nous discutons de vieillissement avec elle. Justine Robert, bonjour.
Bonjour, Guillaume.
c'est tout un mandat que vous vous êtes donné, mais vous le cogitiez depuis un certain temps, là, ce vieillir avec panache.
Ouais, c'est un mandat, je sais pas. Je me suis aussi fait plaisir, hein. C'est-à-dire que, bon, pas plaisir dans le sens que je trouvais ça jojo, là, ce que j'écrivais, mais ça m'a fait du bien de l'écrire. Ça m'a fait du bien de coucher sur papier, là, toutes les émotions qui voulaient émerger et qui étaient contenues parce qu'on pouvait pas bouger, on pouvait pas sortir. La première vague, là, c'était quelque chose. Moi, j'avais même pas le droit d'aller à l'épicerie, tu sais. Il fallait que ce soit mon conjoint qui aille à l'épicerie.
C'était alors très tragique parce que vous le cogitiez depuis une dizaine d'années, oui, mais la pandémie a été un point de bascule.
Tout
finalement.
À fait, tout à fait.
Et vous dites que le mot vieillir n'est ni négatif ni péjoratif en soi, c'est le système de valeurs actuel, ouais, qui ne supportant pas le vieillir, la dépraver. D'ailleurs, vieux et vieilles sont les vocables que vous préconisez dans votre plus récent ouvrage, à l'aune de aïeul, aîné, personne âgée, retraité, ouais, etc. Qu'est-ce que vous répondez à une personne qui pourrait être choquée d'entendre le mot vieux?
Il y en a plusieurs qui le sont. Il y en a plusieurs qui le sont. Puis je vais vous raconter une petite anecdote très, très concrète à cet égard-là. Dans le livre, je ne sais pas si vous vous souvenez, Guillaume, je vais vous tutoyer, d'accord?
D'accord, on
alors,
se tutoie.
Alors, faites-en de même. Même si d'accord. je suis vieille, là, tutoyez-moi.
D'accord, on se tutoie, Justine.
D'accord. D'accord. Alors, donc, dans le livre, je parle à un moment donné d'une dame qui a 80, 82 ans et qui s'appelle Marjolaine. C'est une femme que je connais pour de vrai dans la vie, parce que j'ai voulu dans le livre parler de personnes qui ont de l'âge, qui sont vieilles, mais qui sont énergiques, qui ont du bagou, qui sont créatives, qui sont fonctionnelles, mais pas juste de personnes connues. Alors, pour que les gens pensent à regarder autour d'eux et d'elles, il y en a aussi. Donc, elle, Marjolaine, c'est une bonne femme extraordinaire. Elle a une énergie, elle tient une boutique de vêtements. Et c'est pas des affaires, c'est pas des vieilleries, ces vêtements-là. C'est jeune, c'est pétant, c'est dans le vieux Longueuil. Et elle va chercher ses vêtements elle-même le lundi, jour où sa boutique est fermée. Elle enfourche son auto comme elle enfourcherait son cheval. Elle est extraordinaire. Donc, j'ai parlé d'elle, je lui ai dit que j'allais parler d'elle, elle m'a autorisée. Et puis, évidemment, quand le livre est sorti, je lui ai, à elle d'abord, puis à quelques autres, fait envoyer par ma maison d'édition. Elle me téléphone et elle me dit, d'abord sur le répondeur, « Écoute, je me suis assise les pieds sur le bord de mon foyer, mon chat sur moi. Je me suis pris un verre de vin. » Je trouvais ça beau parce qu'elle était dans le plaisir. « Je me suis pris un verre de vin, j'ai voulu lire un chapitre ou deux et je suis passée à travers. » M'a dit, faut que je te dise quelque chose. J'ai jamais été capable de sentir les mots vieux et vieille. Et là, j'ai réalisé, en te lisant, que je ne savais pas pourquoi. Alors ça, je trouve ça intéressant. Je prends le temps de le raconter parce que les mots vieux, vieille, vieillesse, on ne sait pas trop pourquoi on haït ça. Parce que ça fait référence à dépassé, à obsolète, à poussiéreux, à agonisant. Il y a quelque chose de péjoratif, mais c'est nous qui avons, ce sont nos sociétés qui ont donné une connotation. Parce que dans le mot vieux, vieille, il y a d'abord la particule vie. Ça commence par V-I-E. C'est comme si la langue s'était souciée de rappeler au monde qu'on est encore vivant quand on est vieux.
Mais en même temps, il y a une certaine gravité. Quand on lit votre livre, on le sait que ça a été écrit dans un contexte de crise sanitaire.
Ouais.
Mais il y a vraiment une tonalité très, très grave avec ce que vous racontez parce que les gens qui s'indignent comme vous l'avez fait, puis vous l'avez fait avec justesse, les personnes qui critiquent, qui réclament un changement ou qui revendiquent un changement, vous avez brassé la cage.
Ouais.
Puis quelques mois après la sortie de votre livre, quel constat vous faites sur la réception du livre auprès du public, mais des médias aussi?
Ben, je fais le constat que plusieurs personnes sont très heureuses, s'identifient beaucoup, sont contentes. La réception des médias, elle est formidable. Je lis des choses auxquelles je me serais même pas attendue de certaines personnes. On parle de la fraîcheur, on parle du bien que ça fait de lire ce livre-là, même s'il y a de la gravité. Ça reste un livre, il y a du ludique dedans aussi. Donc, la réception, elle est très bonne. Et pourquoi elle est très bonne? C'est pas parce que je suis bien plus fine que les... Je suis pas plus fine que les autres. C'est parce que c'est vrai, ce que je dis. Et les gens disent, mon Dieu, mais enfin, comment ça... Ma coiffeuse, peut-être qu'elle va entendre cet enregistrement-là un jour, elle m'a dit, quand tu parles de l'âgisme bienveillant dans ton livre, ben j'ai réalisé que c'était moi, que je fais de l'âgisme bienveillant avec mes parents, par exemple, qui ont 80 ans. Je les traite comme des enfants. Je les infantilise. Et merci, ça m'a... Bon, ben moi, ça, tu sais, je te le raconte, ça me donne des petits frissons parce que je suis contente. C'est ça l'objectif de ce livre-là, c'est de prendre conscience, d'abord individuellement, puis peut-être collectivement. J'ai envoyé mon livre au premier ministre Legault, je l'ai envoyé à Marguerite Blais, qu'on pourrait collectivement s'arrêter puis essayer de voir concrètement comment on peut changer les choses. C'est sûr que la première étape, c'est la prise de conscience. Et moi, c'est ce que j'ai voulu faire. Puis je pense que ceux et celles qui le lisent la font, cette prise de conscience-là.
Le livre a connu un très bon succès, pourtant, malgré qu'il touchait un sujet chaud de l'actualité. Vous avez écrit que sur Twitter que vous n'avez pas été invité à des émissions d'affaires publiques de grande écoute, comme tout le monde en parle. Diriez-vous, Jocelyne Robert, que vous avez été boycottée?
Écoutez, ça peut faire prétentieux de dire ça. En tout cas, on n'a pas voulu me recevoir. Je pense que ma maison d'édition, les gens qui ont travaillé avec moi, pensent qu'il y a une certaine forme de boycott, mais pourquoi, je le sais pas. Là. Est-ce que c'est lié à moi, Jocelyne Robert? Par contre, il y a des endroits où j'ai pas eu de grands articles, où j'aurais pu m'attendre à en avoir. Je pense, par exemple, au magazine Le Bel Âge. J'ai eu un petit encart formidable, une très, très belle critique de Louise Richer. J'ai pas eu un grand papier, mais pour moi, ça, c'était très bien. Puis je pense que dans ce cas-là, ça s'explique par le fait que pas longtemps avant, ça fait même pas un an, il m'avait fait un grand papier en tant que grand-mère, donc en tant qu'arrière-grand-mère. Bon, alors, mais tout le monde en parle, j'avoue, certaines émissions, tout le monde en parle, plus on lit, enfin, tous les gens autour de moi pensent, puis moi aussi, je l'avoue que j'aurais eu ma place sur ces tribunes-là. D'autant plus avec ce sujet qui pouvait pas être plus d'actualité et dont tout le monde parlait. Et bon, alors pourquoi? Est-ce que c'est le thème? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est... J'en sais rien.
Vous savez pas. Vieillir avec panache a été influencé, comme vous l'avez dit, par la pandémie. Vous songez à cette écriture depuis très longtemps.
Longtemps, oui.
Qu'est-ce qui est arrivé dans votre vie pour que... Quel a été l'élément déclencheur? Est-ce que c'est à la rencontre, les rencontres que vous faisiez avec les personnes dites âgées?
Pour avoir envie
d'écrire là-dessus.
Bon, d'abord, depuis 2010, c'est vrai que c'est mon premier livre formellement sur les personnes vieillissantes, vieilles, vieux. Mais en 2010, j'avais écrit Les femmes vintage, qui est un livre plus destiné aux femmes, le titre le dit, mais sur les femmes vieillissantes. Et depuis cet événement-là, la sortie de ce livre-là, j'avais reçu, donc, à partir de 2010, beaucoup, beaucoup de messages, de courriels, on m'en a parlé beaucoup, de messages à l'effet que je voyais combien c'était dur de vieillir. Alors là, je me suis mis, j'ai bâti une conférence que j'ai donnée d'abord à l'Institut de gériatrie de Montréal, puis je me suis promenée avec elle. On en a fait une semblable avec vous, au Salon des aînés, pas tout à fait identique, je les adapte d'une fois à l'autre. Et plus je rencontrais des personnes âgées dans mes conférences, en plus des courriels que je recevais, plus mon sentiment d'urgence de dénoncer, mais pas de dénoncer négativement, de faire voir et d'amener les gens à se poser des questions, pas juste les jeunes, les vieux et les vieilles eux-mêmes. Parce que souvent, ils posent et elles posent elles-mêmes ce regard-là sur elles, parce qu'elles ont bien intériorisé le message d'une société dédiée à la jeunesse éternelle.
Et je me souviens, à Saint-Jérôme, j'étais là, la salle était pleine à craquer. Oui. Alors, c'est signe que vraiment, c'est un sujet qui est très important, mais qui rejoint beaucoup. Suite à la publication de Vieillir avec panache, je m'avais dit, avant d'entrer en onde, qu'il y avait eu une réception autant au niveau des femmes que des hommes.
Oui.
Est-ce que ça vous a surpris?
Bien, ça m'a ravi. Et il y a quelque chose qu'il faut que je te dise. On est revenu au vous, là, on fait très officiel aujourd'hui, Guillaume et moi. D'habitude, on se tutoie. Qu'est-ce que j'allais dire donc? Est-ce que ça m'a surpris? C'est-à-dire que moi, quand j'ai écrit le livre, j'ai été très soucieuse d'être inclusive par rapport au sexe, de toucher autant hommes, femmes
et
les
autres. Même sur la page frontispice aussi.
Voilà,
là.
Exactement. Donc, même dans ma façon d'écrire, j'ai pas écrit, j'ai pas utilisé une écriture féministe, mais j'ai utilisé une écriture inclusive. C'est-à-dire que je mettais mes adjectifs autant au masculin qu'au féminin, j'alternais, je trouvais ça important.
Vous avez essayé d'être neutre.
Puis j'ai essayé de rejoindre tout le monde, les hommes surtout, qui sont pas faciles à rejoindre par l'écrit, les hommes âgés ou vieillissants. Et à la page couverture, même chose. J'ai dit aux gens qui travaillaient avec moi aux Éditions de l'Homme, ça me prend une page couverture qui est large. Ça me prend des hommes, des femmes, bon, tous à partir de, disons, 60 ans. Mais alors, oui, donc j'ai été surtout ravie parce que je me suis dit, je me dis constamment, parce que j'ai encore eu des courriels hier, ce matin, j'ai pas regardé. Je me suis dit, ça marche. Les hommes sont pas si insensibles qu'on le pense, puis sont aussi préoccupés. S'il y a quelque chose qui préoccupe les hommes, peut-être d'une façon différente. Hein? Ils vont plus être préoccupés par le vieillir en termes de leur performance, pas juste sexuelle, mais de leur performance tout court, alors que les femmes vont être préoccupées beaucoup, et ça, c'est pas étonnant, c'est la société qui le veut ainsi, par leur apparence, par leur désirabilité, par leur... Bon. Mais, puis... Presque tout le monde a un petit peu peur de la mort, un petit peu peur de la maladie, un petit peu peur de souffrir, un petit peu peur de l'isolement. Et c'est normal. Moi aussi, je suis là-dedans. Là. Je m'inclus là-dedans. Et je pense que si le livre a une telle réception depuis février, là, et ça continue, c'est probablement parce que ça se sent que je suis pas... Tu sais, je dis pas aux autres comment c'est ou que ça devrait être. Je m'inclus là-dedans.
Effectivement, parce que vous n'êtes pas gêné de le dire, vous avez 72 ans.
J'ai eu 73 il y a quelques jours.
Voilà.
Je suis un taureau comme toi.
Ah oui, donc 73 ans. Ouais. Puis vous n'avez pas peur de le dire, votre âge,
non,
finalement.
Non, mais dites... j'ai jamais eu peur de dire mon âge.
Non, c'est ça, parce que vous dites que ça serait un échec du féminisme de pas vouloir dire son âge.
Ben, c'est un échec du féminisme. Puis c'est surtout mettre... Tu sais, on fête... Il y a quelque chose de paradoxal. Moi, j'aime bien... je souligne souvent les paradoxes, là, parce que ça, je trouve que ça aide à faire avancer. Tu sais, on a peur de vieillir, on haït vieillir, puis on célèbre notre anniversaire. Alors, il y a quelque chose... Pourquoi on célèbre? Bon, je dis pas qu'il faut arrêter de célébrer. Moi, j'aime ça, la fête, puis le champagne, puis tout ça. Mais on a tellement de difficultés avec l'âge qu'on a peur de dire notre âge, alors que... Ça veut dire quoi, l'âge chronologique? Ça veut dire que quelqu'un sa planète plus longtemps que l'autre, puis bon, mais on est tous des êtres humains avec le même...
Mais pour vous, là, qui vivez ce vieillissement-là, bien évidemment, on vit toute notre vie, mais ouais. Ce que je veux dire, c'est ce que pour vous, est-ce que votre corps, ça constitue une source de douleur, de détresse là, pour vous? Parce qu'on vous entend pas beaucoup parler, je reviens au vous, là, on t'entend pas beaucoup parler sur toi. Évidemment, tu parles des autres et tout ça, mais de ton côté, comment tu vieillis?
Ah, mais
comment
puis j'en parle dans mes conférences pourtant. Puis j'en parle un peu dans le livre. C'est sûr que c'est un essai, mon livre, ouais. Donc fallait que je reste dans l'idée de l'essai. Moi, je trouve que vieillir, là, perdre se fragiliser, c'est pas drôle pour personne. Je mentirais si je disais « Ah, que c'est le fun, je fais de l'arthrose, tu sais. Des fois, je me réveille le matin, j'ai de la misère à marcher. » C'est pas le fun, tu comprends? Mais en même temps, je vais dans le bain. Puis là, je me savonne, puis je suis quelqu'un d'assez sensuel. Et je me dis, c'est formidable, je ressens. Même la douleur, je la ressens. Et c'est formidable parce qu'un jour, je la ressentirai plus pantoute. Donc, hein, c'est ça, rester dans le moment présent, mettre l'accent sur ce qui nous reste. Moi, je vieillis, j'ai un corps qui est plus le même que quand j'avais 20 ans, loin de là. Mais il me convient, mon corps.
Donc,
vous
résistez
convient très
pas
bien.
À votre vieillissement. Là.
Je ne résiste pas et je ne suis pas du tout Bon, j'ai rien contre ça, là, mais je trouve que c'est un dictat social énorme de vouloir avoir la jeunesse éternelle. Tu sais, moi, j'ai même cellule qu'avant, puis j'ai pas fait de transformation.
Mais cette jeunesse, cette quête pour la jeunesse éternelle, c'est entre autres ce qui explique que vieillir, puis tu le dis dans le livre Vieillir avec panache, que vieillir est beaucoup plus difficile pour une femme que pour un homme.
Oui.
Et donc, est-ce que ça aussi, c'est un échec du féminisme?
C'est un échec du féminisme, c'est un échec des sociétés, c'est-à-dire que les femmes de tout temps, hein, le modèle de femme, c'est la top modèle, la glamour, l'objet sexuel. Alors c'est sûr qu'à partir du moment où on ne correspond plus à l'image de l'objet sexuel privilégié, qui est celui de la belle fille de 22 ans, ben on est moins présente, les femmes sont beaucoup moins présentes que les hommes encore aujourd'hui dans les médias partout.
Et
même
pourtant,
si
ce sont elles qui font partie des personnes de 65 ans et plus, elles sont majoritaires.
Oui, elles sont majoritaires, absolument. Elles sont majoritaires, puis ce sont celles aussi qui sont, elles meurent plus vieux.
Ouais.
Elles meurent plus vieux, elles sont impliquées davantage forcément et plus longtemps auprès de leurs proches, de leurs petits-enfants. Je pense que là, on a l'air de s'éloigner, mais on s'éloigne pas, c'est une globalité.
On
peut pas séparer le sujet des valeurs et des stéréotypes culturel véhiculé par les sociétés occidentales.
Exactement, mais on a l'impression qu'on élargit tout ça, puis même le livre fait état d'une très grande complexité.
Oui.
Par rapport au vieillissement, surtout en Occident.
Oui.
Mais les sociétés s'occidentalisent de plus en plus. Vous dites qu'il va y avoir un avant et un après COVID.
Oui.
Par contre, vous êtes sceptique face à cette vague d'amour soudaine.
Oui.
Je sais, là, t'as pas de boule de cristal, bien évidemment, mais à quoi peut-on s'attendre pour la période post-pandémie?
Et mon Dieu. Oh là là.
Est-ce que c'est une lune de miel qui va finalement qui est éphémère?
Vraiment. D'abord, je pense que c'est pas encore une lune de miel. Je pense qu'on a réveillé. Mais on a réveillé toutes sortes de choses. On a réveillé aussi ceux et celles plus jeunes, la plupart du temps, qui disent « tassez-vous, effacez-vous, crevez, débarrassez le plancher, c'est notre tour ». Et ça, c'est pas parce que j'ai 73 ans, je trouve ça épouvantable, parce que il me semble même pas, j'en suis convaincue, on a tellement à s'enrichir. Je veux dire, toi et moi, on est à des décennies de distance, puis je pense qu'on a du plaisir à partager, puis on aime échanger, puis on a... Avec ma petite fille qui a deux... Ma petite fille qui a 2 ans et demi, il se passe des choses extraordinaires. Des fois, elle me regarde, puis tout à coup, elle prend mes cheveux, comme ça, je fais le geste en ce moment, là, personne ne le voit. Et puis, elle regarde la couleur, et elle est émerveillée. Et je trouve, puis ça là, c'est pas retomber en enfance, être capable de, c'est au contraire, c'est être capable de jouer. Je dis souvent aux couples, quel que soit leur âge, qu'ils soient homosexuels, hétérosexuels, peu importe, on a tendance à chercher quelqu'un pour vivre à deux, pour vieillir ensemble. On a tendance à chercher quelqu'un avec qui vieillir, alors qu'on devrait chercher quelqu'un avec qui rester enfant. Je suis convaincue de ça. Parce que dans cet aspect-là de l'enfance, le sport tombe en enfance, c'est la capacité de s'émerveiller. C'est la capacité s'émouvoir, d'être fasciné par l'autre. Hein? Puis qu'est-ce qu'il y a de plus merveilleux dans un couple que de continuer d'être émerveillé par l'autre, d'être admiratif, d'être captivé? Mais c'est pas ça, on entre dans... Enfin, mais là, je veux pas m'éloigner.
Voilà, parce que pour la période post-pandémique, est-ce que finalement, oui. Ça revient à dire que, croyez-vous à ce moment-là, que l'âgisme, c'est un mal qui est incurable pour société comme la nôtre?
Si les valeurs de la société ne changent pas, oui, c'est incurable.
Parce que ce qu'il faut dire, c'est que le vieillissement populationnel va continuer d'avoir de plus en plus d'ampleur.
Tout à fait, absolument. Puis même là, je veux dire, quand on sait qu'il y a plus de 65 ans et plus que de 15 ans et moins, ça s'est jamais vu dans l'histoire. Quand j'étais enfant, Guillaume, autour de moi, il y avait des enfants partout. Partout. Il y avait 4 classes de deuxième année, je pense, de 38 par clan. Il y avait des enfants partout. Il y avait très peu de vieillards. Moi, j'ai eu un et une grand-mère, grand-père, puis je les ai connus jusqu'à 7-8 ans à peine. Alors, il n'y avait pas de personnes âgées, il n'y avait pas de vieux, d'aînés, de vieilles, de seniors, ou très peu. Aujourd'hui, je regarde ma petite fille, elle est comme unique au monde. Et elle a, je ne sais pas combien de grands-parents puis d'arrière-grands-parents. Moi, j'ai même pas... Tu comprends? Donc, forcément, le monde est complètement...
Hétéroclite, c'est ça.
Et oui, transformé. Et ça, c'est une valeur, le fait que 5 générations coexistent en même temps, ça à boule en ce moment. Là, c'est extraordinaire. C'est merveilleux. Alors, quand j'entends... que c'est... bon, que les vieux vivent au crochet de la société, puis... qu'est-ce que c'est ça? Ces personnes-là ont tellement donné à la société, ont tellement enrichi cette société. Quand on reproche aux baby boomers, puis je suis loin de faire l'apologie des baby boomers, mais sans baby boomers, là, il y a bien des choses qui seraient jamais advenues. Il n'y aurait même pas eu de révolution tranquille au Québec, il n'y aurait pas eu d'avènement du féminisme, tu comprends? Alors, et chaque génération a des particularités, des richesses propres qu'il faut mettre en commun. Je suis convaincue que j'ai des choses à apprendre de toi, que j'ai des choses à apprendre de ma petite fille, de mes arrière-petits-enfants. J'ai un arrière-petit-fils maintenant qui vient d'arriver. Et comme je suis convaincue aussi un instant qu'ils ont des choses à apprendre de moi. Fait que là, s'ils veulent me tasser, ils vont avoir de la misère, là, parce que je me laisserai pas tasser, tu comprends?
Bien, c'est ça. Puis en même temps, on pourrait se questionner, puis il y en a certains qui vont se dire peut-être que c'est un débat sémantique superflu, mais même le concept d'âgisme, vous dites là, que c'est quand même récent, là, dans la fin des années 60.
Oui, 50, c'est... je pense, a commencé le thermagisme.
Avec Robert Butler, ouais, le gérontologue.
Exact.
Mais vous avez commencé votre carrière de sexologue à l'hôpital d'Youville à Sherbrooke, oui. Début des années 1980,
oui.
Qui était un centre hospitalier de soins prolongés.
Exact.
Et puis le directeur vous a appelé en pleine catastrophe parce que le personnel paniquait de voir les bénéficiaires, qu'on appelait à l'époque, se faire des mamours, se bécoter, et il ne savait pas quoi faire avec ça.
Ouais,
c'est la panique générale. Vous avez constaté finalement qu'on avait oublié que ces hommes et ces femmes étaient des êtres humains sexués, sexuels et érotiques. Croyez-vous que ça a vraiment changé depuis ce moment-là, depuis votre début de carrière?
Vraiment, c'est trop. Ça a changé un peu, ça n'a pas changé énormément. Hélas, c'est encore très, très difficile. Mais en même temps, c'est compris. Les choses prennent du temps, tu sais. Quand t'as même pas, t'es encore à te questionner sur la nécessité de l'éducation à la sexualité à l'école. L'éducation à la sexualité, parce que là, tu abordes l'aspect affectif et sexuel des personnes, des vieux et des vieilles, ça veut dire que t'es pas rendu, tu comprends pas, là, tu comprends pas ce que c'est l'éducation à la sexualité. L'éducation à la sexualité, son but, c'est pas juste d'informer sur les maladies puis les agressions. L'éducation à la sexualité et à l'affectivité, j'ajoute toujours, son but, c'est d'amener les garçons, les filles, les enfants à être fiers. C'est de développer la fierté d'être. C'est de développer le respect de l'autre. Si ça s'est installé dès le départ, ça déborde sur tout. Tu comprends? C'est très complexe, c'est très large tout ça. Ça amène la personne à grandir en considérant que la dimension sexuelle, elle appartient à tous les hommes et à toutes les femmes. Quel que soit l'âge, et bien sûr, elle va s'exprimer différemment. Donc, je pense qu'on est un petit peu moins étonnés et scandalisés quand même. Parce que moi, quand j'ai fait ça, là, c'était terrible. Là. Les personnes qui manifestaient, les personnes fragilisées, âgées, qui
handicapées
manifestaient...
même.
Handicapées aussi. Qui manifestaient, qui exprimaient des besoins sexuels, c'était épouvantable. Là. Ils passaient pour des vieux cochons, des vieilles nymphomanes, je veux dire, c'était c'est innommable, tu sais. Puis je dis pas que c'est la faute du personnel. Ils ne savaient pas. Il y a une ignorance terrible.
C'est ça, parce que vous dites que la sexualité était absente du schéma thérapeutique.
Exactement.
Je vous raconte une petite anecdote. Ma grand-mère était en CHSLD. Elle est décédée pendant par la COVID-19 en mai. Justement, ça fait un an aujourd'hui. Et lorsqu'elle est rentrée dans son CHSLD public à Saint-Jérôme, évidemment, ça a déstabilisé son conjoint.
Évidemment.
Son conjoint des 25 dernières années. Et donc, à un moment donné, lui, il est arrivé un soir pour dormir avec elle. Évidemment, le personnel l'a autorisé parce qu'il était rendu très tard, mais ça a déstabilisé tout le personnel, ne serait-ce que de caresser sa conjointe, mais les installations ne sont pas adaptées. Croyez-vous qu'il y a un manque à gagner concernant l'éducation auprès du personnel soignant, entre autres au niveau des CHSLD?
Clairement, puis même au niveau des médecins. Moi, je faisais la phase de sexologie avec les étudiants en médecine, là, il y a longtemps. Puis, je veux dire, c'est des êtres humains, les médecins, les femmes et hommes médecins, tu sais. Ils ont des limites et ils n'ont pas beaucoup d'heures sur la sexualité dans toute leur formation, qui est formidable à d'autres égards, là. Donc, cette dimension-là, cet aspect-là de considérer l'être humain dans sa globalité, hein, comme un être... Et l'autre affaire, c'est qu'il y a le plaisir. Tout ce qui se rapproche, qui se rapporte au plaisir, c'est encore suspect. Et la sexualité, elle est associée au plaisir comme étant quelque chose de moins noble. Et c'est surtout chez les vieux et les vieilles, comme quelque chose de moins noble. Or, moi, je rappelle toujours aux personnes, aux gens, le plaisir, c'est biologique. On a besoin du plaisir pour survivre. Regardez un nourrisson, quand il tète, il fait pas juste se nourrir de lait pour grandir puis se renforcer. Il est dans une sorte de bulle de plaisir. C'est bon, ça lui fait du bien. Il s'éloigne de la douleur. Il recherche ce moment de plaisir, de chaleur. Et ça ne nous quitte pas. On a besoin. Et plus, quand on est vieux, quand on est vieille, on n'est plus dans la performance ou moins dans la performance, même si on peut encore, pour certains et certaines, avoir une pulsion sexuelle génitale très présente. On est moins dans la performance et on découvre l'érotisme. On devrait se réjouir de ça. On découvre le plaisir d'être regardé par quelqu'un qu'on séduit, qui nous aime, qui a envie de se rapprocher de nous, qui nous désire. Il nous désire pour nous toucher, pour nous caresser, pour se rapprocher, pour se faire des... C'est merveilleux et ça aide à vivre et ça augmente la santé.
Voilà, parce qu'on parle beaucoup aussi de la thérapie musicale, la zoothérapie, mais cet aspect-là, on l'oublie. Puis même dans les institutions, pour les soins prolongés, par exemple, les lits, ce sont des lits simples, souvent des chambres à deux. Alors, est-ce que vous pensez qu'on doit repenser la configuration des CHSLD, puis même avec les maisons des aînés qui s'en viennent?
Oui.
Quelle est la solution, finalement?
Moi, je pense qu'il faut repenser dans le sens qu'il faut... Il faut qu'il y ait une ouverture à permettre le rapprochement. Vous avez évoqué, Guillaume, une de mes premières expériences de travail. J'étais une jeune sexologue dans ce qu'on appelait à l'époque un centre hospitalier de soins prolongés. Ça avait chamboulé l'institution, ce que j'avais apporté. J'avais donné de la formation personnelle et on avait décidé, ça c'était leur décision, parce qu'il n'y avait pas d'autre moyen, de créer une chambre d'intimité. Donc une chambre où les personnes pouvaient aller. Mais tu sais, c'est pas très approprié. Bon, premièrement, il y avait ma chambre d'intimité dans l'ancienne chapelle. Ça, en partant, ça avait aucun sens parce que les gens étaient religieux et la sexualité était associée au péché dans leur tête, très souvent à l'époque. Bon, maintenant, c'est vrai que des fois, ils n'ont pas les infrastructures. Mais dans la mesure du possible, je pense que ça serait réaliste et réalisable de mettre en place des infrastructures pour que si deux personnes ont des affinités, ont le goût d'être ensemble, pourquoi on ne leur laisserait pas partager le même espace?
Je pense que ça existe. Évidemment, on ne peut pas généraliser. Ça doit exister dans certaines institutions, mais en même temps, c'est pensé comme étant un allant de soi que les vieux et les vieilles n'ont pas de rapprochement érotique, sexuel.
Mais ça existe plus dans les maisons, les résidences pour personnes autonomes.
Oui.
Ça existe moins. Alors que les personnes qui sont fragilisées, et qu'on sait qu'ils vont être là longtemps. Moi, c'était le cas, là. J'avais des personnes là-bas qui étaient là depuis 15 ans puis qui allaient passer le reste de leur vie là. Je dis pas, là, des personnes qui sont très malades, confuses, plus ou moins. Bon, il faut servir de son jugement aussi. Mais à partir du moment où une personne est fragilisée, que ce soit une fragilité physique, mentale, les deux, peu importe, mais qu'elle doit rester dans un milieu de vie pour plusieurs années encore, il n'y a pas de raison que cette personne-là ne puisse pas profiter de toutes les prérogatives d'un être vivant. Et un être vivant, ça a besoin de manger, ça a besoin d'amour, ça a besoin d'affection, ça a besoin d'être touché affectueusement, ça a besoin de tout ça. Alors, freiner, empêcher, interdire le rapprochement sensuel, voire sexuel, affectueux entre deux personnes qui le désirent, c'est carrément mettre un frein à l'épanouissement d'une personne.
Mais en même temps, ça peut être difficile hein, pour une personne institutionnalisée ou une personne, par exemple, quand on a annoncé que vous veniez, il y a une infirmière qui nous a écrit pour nous dire que à l'endroit où elle travaille, dans une ressource intermédiaire, il y a un homme qui fait appel à des escortes pour assouvir
ses besoins.
Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez, parce que ça l'a déstabilisé le personnel soignant, qu'est-ce que vous répondez à ce genre de situation-là?
Bon, écoutez, en Europe, il existe je me rappelle plus comment on les appelle, pas travailleuses, mais assistantes sexuelles. Ce sont des...
En Europe.
En Europe. En Belgique, un autre pays, je me rappelle plus lequel, là, j'ai joué dans ce dossier-là il y a quelques années. C'est leur job. Ce sont des assistantes sexuelles. On les appelle pas des prostituées. On les appelle des... Parce que leur objectif, puis moi j'en ai vu se faire interviewer, j'en ai entendu, leur objectif est très humain. C'est sûr qu'elles sont payées, je le nie pas, puis que ça peut amener une connotation... Mais leur objectif est vraiment humanitaire et elles sont affectueuses. Bon, c'est sûr que ça a quelque chose de triste pour la plupart des gens qui nous entendent de devoir payer. Mais pourquoi pas? Cet homme-là, s'il a des besoins à assouvir, si la masturbation soit ne lui suffit pas ou elle est... des fois, ils sont pas capables de se masturber non plus, ça dépend de leur état, là. Bon, et si la pulsion sexuelle génitale est là, que des personnes qui sont capables de consentir réellement à rendre ce service-là, parce que c'est un service, pourquoi pas? C'est sûr que ça peut choquer certains, mais qu'est-ce qui est préférable? Que la personne soit devienne hyper frustrée, en colère, voire parfois un peu violente, agressante même.
Peut-être même aussi parfois, ce que l'infirmière nous disait, c'est qu'elle avait été témoin de situations où le bénéficiaire ou la bénéficiaire, surtout des hommes, payait même au noir des infirmières ou des préposés aux bénéficiaires justement pour assouvir les besoins de... Mais ça montre quand même qu'on ne reconnaît pas ce besoin-là.
Exactement. Moi, je me souviens d'une... Mais ça, c'est tellement incrusté en nous. Je me rappelle quand je donnais cette formation-là, il y avait une jeune infirmière ou préposée, je ne sais plus, peu importe, je me rappelle même de son visage. Elle m'avait dit, moi, quand je suis devant des patients, que je les aime, moi, mes patients. Et des fois, là, je sais que ça leur ferait du bien si, plutôt que de leur caresser le dos, je leur caressais le sexe. Et je le ferais si j'avais pas peur. Bon, je donne l'exemple qu'il y a des personnes très ouvertes. Évidemment, elles ne le faisaient pas. Moi, comme sexologue, il m'est arrivé... Je me rappelle encore dans cette institution-là, j'interviewais ce qu'on appelait un jeune bénéficiaire. Il devait avoir 28 ans. C'était le plus jeune, 28-30 ans. Il était... très, très hypothéqué physiquement et il allait passer le reste de sa vie en institution, clairement. Bon, lui, il vivait à l'intérieur de l'institution. Ça avait d'ailleurs fait partie de la raison pour laquelle on m'avait appelé, là. Il vivait une relation amoureuse, affectueuse, sexuelle, génitalisée, avec un autre bénéficiaire. Donc, en plus, c'était une relation homosexuelle. Je dis en plus parce que je cite le personnel, là. Donc, c'était plus difficile. L'autre monsieur était pas mal plus vieux. Alors, tout de suite, on m'a dit, il se fait agresser sexuellement. Tu comprends?
Cette notion de consentement-là, par exemple...
Bon, ben voilà, c'est très, très délicat.
C'est très difficile, surtout pour les personnes, par exemple, qui ont une démence
assez majeure. C'est ça, mais là, voilà. Moi, je sais...
C'est complexe.
Il faut comprendre, Guillaume, que dans ma situation, je n'ai pas d'expertise médicale quant à la gériatrie et les maladies dégénératives, là, comme l'Alzheimer ou la démence ou la sénilité. Mais je parle en général de personnes relatives... pas trop hypothéqué. Dans mon cas, je parle de ce que je connais, c'est évident. C'est sûr que il peut y avoir agression sexuelle si quelqu'un se met à toucher une personne qui est complètement... Et là, il faut réagir. Il s'agit pas... Loin de moi l'idée de dire qu'il faut tout permettre. C'est pas ça, pantoute. Au contraire.
Mais de reconnaître,
voilà. Puis je reviens sur ce couple-là parce que c'est important de le dire. On disait tantôt c'est plus difficile pour les femmes. Mais si on parle de sexualité dans le milieu institutionnel, que ce soit en résidence, pas personne autonome, semi-autonome, ben à partir du moment où quelqu'un est... En plus, disons que la femme, elle est femme, elle a 80, 75 ans, elle est noire, puis elle est lesbienne. Ben là, ça va pas bien. Là,
l'intersection entre toutes les discriminations.
La réunion de tous les tabous. Là. Alors, puis dans le cas de ces deux hommes-là dont je viens de te parler, ils étaient tous les deux très sains d'esprit. Et pourquoi on interprétait qu'il n'y avait pas consentement? Parce que le jeune se sentait coupable. Sauf que quand on l'interviewait, il avait de la difficulté d'élocution, mais il était brillant, il se sentait coupable parce qu'il n'arrêtait pas de me dire « je ne suis pas homosexuel ». En voulant dire « c'est une situation situationnelle justement, circonstancielle ». Mais moi je disais que tu sois homosexuel ou pas, si tu y consens puis si tu y prends plaisir, ben tu as le droit. Puis l'autre monsieur n'était pas du tout un homme qui agressait ni psychologiquement, ni... Alors, c'est sûr que ça peut être facile de convaincre le personnel...
Mais il y a une détresse quand même, tu sais, c'est ce que j'entends de votre récit, là.
Ben c'est sûr qu'il y a une détresse, parce que... Puis il y avait une détresse dans ce cas-là, parce que l'autre monsieur était très amoureux du jeune garçon. Du jeune, il n'y avait pas 50 ans de différence, là, mais il y avait peut-être 15-20 ans de différence.
Mais toutes ces personnes-là, ont une famille qui gravite autour d'elles. Qu'est-ce que vous diriez à une famille qui pourrait vivre ce genre de situation-là, que ce soit avec la mère, le père ou peu importe?
D'abord,
qui est témoin de ce genre de situation.
Bon, d'abord, la plupart du temps, ils capotent, là, si vous me permettez l'expression. Combien de fois j'ai entendu des enfants dire de leur mère, voyons, pas ma mère, voyons, elle a sûrement été agressée, voyons, ma mère avec un homme dans un lit, puis elle a voulu, je peux pas croire ça, c'est sûr qu'elle a été agressée. Tu comprends? Donc, tout de suite, alors je leur dirais d'abord, on laisse retomber la poussière, là, on respire par le nez, et puis on va aux sources. La maman en question, elle a beau avoir 75 ans, si elle est saine d'esprit, puis elle dit, ben ouais, moi j'en ai... il me plaît cet homme-là, mais c'est pas de nos mots, juste d'affaires, tu comprends?
Parce que dans Vieillir avec panache, vous citez un nom fictif, Madame Rosa,
oui.
À une femme veuve de 78 ans qui a vécu une vie sexuelle très épanouie jusqu'au décès de son mari à 85 ans.
Mm-hmm.
Elle vous a écrit en fait, elle a dit « Je ne dois pas être normale ».
Bien sûr, parce qu'à chaque fois qu'elle avait tenté d'en parler... Par exemple, à son médecin, puis ça, c'est longtemps avant, là, je ne me rappelle plus quel âge elle avait, mais elle avait dit à son médecin, je pense que j'ai une libido trop forte, j'ai des besoins sexuels beaucoup. Quand mon mari part travailler pour quelques jours, j'en ai mal au ventre, tu sais. Et puis le médecin lui avait dit, bon, vous inquiétez pas, ça va passer en vieillissant. Mais sauf que dans son cas, ça passait pas. Et elle avait toujours le sentiment d'être jugée comme anormale. Et moi, quand je donne cet exemple-là, c'est pas pour le poser en modèle, c'est pour montrer aux hommes et aux femmes qui sont devant moi qu'il y a toutes sortes de possibilités. Il n'y en a pas une qui est plus normale avec un grand N que l'autre. Hein? Il y a des personnes vieilles qui ont des besoins sexuels. Et dans ce cas-là, c'est une femme. C'est encore plus difficile à croire parce qu'on pense toujours que les hommes sont sexuels, non pas jusqu'à la mort, mais jusqu'à la semaine suivant la mort. Alors que les femmes, on pense que c'est fini. Bon, c'est pas vrai. Et l'important, c'est d'être bien puis de choisir, mais de se demander, est-ce que je le veux vraiment? Est-ce qu'on m'a convaincu que c'était comme ça? Parce que combien de fois les personnes vieilles se laissent convaincre qu'elles n'ont plus droit. J'ai entendu parfois des femmes de 50 ans, 55 ans, dire « ben moi, j'ai fait une croix là-dessus, là, je suis plus sur le marché, je ne peux plus compétitionner, rivaliser avec les jeunes poulettes fraîches et dodues et qui ont des seins obus, puis bon. » Alors, réfléchir, prendre conscience, défaire la bobine là, qu'on a enregistrée. Puis dire, comment se fait que j'ai enregistré ça, moi, cette affaire-là, là, tu sais? Parce que c'est ça qu'on a fait. Et aboutir à un choix éclairé.
Oui, mais en
à
même
un
temps,
consentement voilà. Ou à un refus, mais éclairé, qui vient vraiment de soi.
En même temps, il ne faudrait pas non plus mettre de côté les personnes qui vivent des incapacités.
Ben non!
Et donc, j'imagine que c'est possible de vieillir avec des incapacités puis de ne plus du tout avoir le goût d'avoir des relations sexuelles. Qu'est-ce que vous en pensez?
D'avoir des relations sexuelles génitales, ouais. De ne plus avoir de pulsions, c'est très possible et c'est très fréquent. Mais la sexualité, il n'y a pas d'équation entre la sexualité, c'est l'erreur qu'on fait. Sexualité égale génitalité. C'est pas vrai.
Non,
la sexualité, c'est beaucoup plus large que ça. Parce que ce qu'on sait, par exemple, tiens, un autre exemple, les gens aiment ça, les exemples concrets. Je me rappelle d'un monsieur que j'ai connu, que j'ai interviewé dans un contexte de travail, dans une institution. Il avait subi une blessure médulaire. Donc, blessure médulaire au niveau de la colonne, il n'avait plus de sensibilité du tout à partir de la taille, si je me souviens bien. Plus d'érection, plus d'éjaculation, plus de sensibilité. Et le personnel me disait, cet homme-là, il n'y a plus rien là. C'est fini. Il n'y a plus de sexualité. Donc, tu n'as pas besoin de l'interviewer ou d'aller voir. Alors, bon, tu me connais. Je dis, ben, s'ils me disent de ne pas l'interviewer, ça veut dire qu'il faut vraiment que je l'interviewe. Et je me suis rendu compte que parmi les, je ne sais pas, moi, 40-50 personnes que j'avais interviewées dans cette institution-là, c'était, pas probablement, c'était l'être le plus sexuel que j'avais jamais rencontré. C'est-à-dire qu'il avait développé une sensualité au niveau du cou, des oreilles, des épaules, tellement intense qu'il appelait ça orgasmique, lui. Et si le personnel, les femmes, entre autres, c'est un homme hétérosexuel dans son cas, si les jeunes femmes, les jeunes préposées, les jeunes infirmières avaient vu ce qu'ils voyaient, lui, dans sa fantasmatique quand elles entraient, Elles auraient pu jamais dit qu'il était pas sexuel. Sa fantasmatique, sa boîte...
Mais vous le dites aussi dans votre livre, Vieillir avec panache, que cette, les pensées érotiques oui. que certaines personnes...
Les fantasmes.
Peuvent, les fantasmes, ça disparaît jamais, finalement.
Ça, non seulement ça disparaît pas, mais ça grandit jusqu'à la fin. Et on n'est pas obligé, mais parfois on peut se dire, je devrais peut-être recontacter ça. Ça me mettrait peut-être dans une espèce de sensualité. Et ce sont des déclencheurs, les fantasmes, des déclencheurs d'intérêt sexuel. Si on a envie de déclencher, si on n'a pas envie, on a le droit aussi. Tu sais? Voilà.
Le concept d'agisme est au cœur de Vieillir avec panache, puis je ne pouvais pas passer sous silence la polémique qu'il y a eu avec Denise Bombardier. En fait, la polémique s'est créée avec Marie-Louise Arsenault à Télé-Québec pour mettre les gens un peu en contexte. C'était la première fois que Marie-Louise Arsenault, l'animatrice, recevait Denise Bombardier depuis 1998. Leur dernière rencontre s'est terminée par toute une confrontation sur le plateau de l'émission de Louise Deschâtelet. Et pour revenir à l'entrevue de Denise Bombardier à l'émission Dans les médias Télé-Québec, l'animatrice a scandé à son invité « Vous avez eu 80 ans il y a quelques semaines. Comment fait-on pour être pertinente à 80 ans? » Puis vous avez écrit un gazouillis qui est devenu très viral. Et vous avez pris en quelque sorte la défense de Denise Bombardier.
Ben oui, puis je sais bien qu'elle n'a pas besoin de moi pour se défendre, là. Mais moi, je reste dans le monde des idées. Hein. Ce sont deux femmes que je respecte, qui ont fait leur chemin et qui sont assez formidables. Dans des domaines, de manières différentes. Sauf que, qu'est-ce que ce 80 ans-là venait faire?
Mais en même temps, faut remettre, vous l'avez dit aussi dans une entrevue que vous avez accordée à Penelope McQuaid, il y a tout un contexte aussi. C'est-à-dire que Denise Bombardier ne s'est pas gênée non plus en 1998 pour mépriser l'âge de Marie-Louise Arsenault en disant qu'elle était jeune puis que les jeunes ne lisent pas les livres.
Bien sûr.
Alors, il y a toute une question de contexte aussi. C'était peut-être une vengeance.
C'est possible. Marie-Louise Arsenault. Mais moi, je me mets à la place de j'allais dire du client. La personne qui écoute, qui entend, qui n'est pas au courant, parce que c'est pas tout le monde qui est au courant de ce contexte-là, Guillaume, loin de là. Moi, je pense que ma fille qui a 50 ans n'est même pas au courant de ce contexte-là. Alors, qu'est-ce qu'on entendait? On entendait quelqu'un qui mettait en perspective un âge où, possiblement, on est moins pertinent. Bien, je pense qu'on peut être moins pertinent à n'importe quel âge. L'impertinence, là, ça n'a rien à voir avec l'âge. Donc, il y avait quelque chose d'agiste là-dedans pour moi, clairement. Les motivations, c'était peut-être ce que vous dites, mais c'était quand même une manifestation d'agisme quand même. Alors, dans ce sens-là, oui. Moi, j'essaye toujours de rester, j'y arrive pas toujours, là, je suis pas un ange, mais de rester dans le monde des idées, tu sais. Si on s'engueule, toi et moi, parce qu'on n'est pas d'accord, on peut engueuler, c'est une façon de parler, mais si on débat très fort, je vais vraiment... je pense que jamais je vais t'attaquer personnellement. Si je le fais, c'est parce que je dérape, là. Si je te dis que t'es bien niaiseux de penser de même, là, je dérape littéralement.
Mais est-ce qu'il y en a, tu penses qu'ils sont pas capables de comprendre cette distinction-là entre le débat puis l'attaque personnelle? Parce que quand on parlait de boycottage tout à l'heure, il y a certains acteurs dans les médias qui refusent, puis on nommera pas nécessairement mais qui refusent de vous avoir en entrevue parce que ils ont pas fait la différence entre
peut-être.
Le débat d'idées.
Probablement, c'est possible.
Et sur Twitter, comment tu vis cette polémique-là, cette façon de réagir de manière très instantanée? Parce qu'entre autres, le gazouille avec Denise Bombardier, ça a suscité toute une tollée. Comment tu vis ce...
Moi, je vis bien avec... En général, je vis très bien avec ça parce que je pense que... J'ai des travers, j'ai des faiblesses, mais je pense que de façon générale, peut-être parce que je suis rendue à 73 ans, là, je ne sais pas. Puis le fait... de travail que j'ai fait aussi toute ma vie, là, où j'ai été forcée d'amener d'autres personnes à discuter d'égal à égal dans le respect. C'est sûr que des fois, je me choque, puis c'est sûr que j'ai dérapé aussi des fois. Là. C'est peut-être pour ça que je suis si sensible à ça, d'ailleurs. Mais je pense que c'est formidable de débattre, puis de dépasser les trucs personnels, tu sais, d'être capable de faire avancer des idées. Si on blaste quelqu'un, puis si je me fais blaster, j'ai plus envie là, d'échanger puis de faire avancer des idées. C'est ça le dialogue, c'est faire avancer des idées, c'est pas s'entretuer tous les deux pour dire c'est moi qui ai raison.
C'est fondamental, je pense, dans une société démocratique comme
qu'on a. Mon Dieu, et comment?
Mais on parlait tout à l'heure de pistes de solutions à ce grand fléau de l'âgisme. Ouais. Est-ce qu'une Jocelyne Robert serait intéressée un jour à faire de la politique?
Oui, et j'ai déjà été approchée, mais on m'a approchée trop tard. J'aurais été intéressée, effectivement, un peu plus jeune.
Ça fait combien de temps que vous avez été approchée?
Ah, c'est pas si longtemps. Ben, en fait, j'ai été approchée deux fois. Une fois, il y a plus longtemps, mais là, c'est le contraire. J'étais trop jeune et le parti qui m'approchait me correspondait pas du tout.
Au provincial ou au fédéral?
Au provincial. Okay. Et récemment, j'ai été approchée aussi, lors des dernières élections, je pense que oui. Et là, j'ai dit non, c'est trop tard. Là. J'ai 73 ans et je pense que je peux être utile autrement, puis je suis un électron libre, je l'ai toujours été, et suivre des lignes de parti, même si idéologiquement la démarche et la philosophie de base d'un parti me convient, je pense que j'aurais de la difficulté. Alors, je pense que dans ce sens-là, on est mieux de ne pas y être. Tu vois, j'étais jeune déjà, puis j'étais comme ça. C'est-à-dire que je me rappelle d'avoir eu une offre de contrat, vraiment, puis on refuse pas les contrats intéressants, tu le sais, t'es jeune, payant aussi, parce qu'il faut qu'on vive. Je me rappelle d'avoir été approchée il y a longtemps, j'étais une jeune sexologue pour travailler avec des hommes agresseurs sexuels, puis des adolescents agresseurs pédophiles. Et j'ai dit oui et j'ai lâché rapidement. Parce que j'étais pas capable, justement, de départager le comportement et la personne. Donc, j'étais pas capable de les aider. Et ça, il y a peut-être des gens qui... En tout cas, je pense qu'il faut faire une réflexion là-dessus, tu sais, puis identifier nos limites. J'aurais dû être capable. C'est ça qui est le pire, mais je ne l'étais pas. Alors, et c'est la même chose, là, ce dont on parle, c'est un peu la même chose dans un autre...
Dans un autre contexte.
Oui, dans un autre contexte, puis moins grave aussi, peut-être.
Oui, c'est exactement, beaucoup, beaucoup moins grave. Dans Vieillir avec panache, tu dis, vers la toute fin, qu'on est tous un peu âgistes.
Oui.
C'est, en fait, c'est une question, en fait, tu as dit, sommes-nous tous un peu âgistes? Et dans Vieillir avec panache, vous faites souvent l'apologie, l'analogie avec de vieillir avec des deuils, avec des pertes, que ce soit la perte des forces, de la mémoire, de l'énergie, des amis. Êtes-vous un peu âgiste, vous aussi, Jocelyne Robert?
Sûrement. Sûrement que je le suis un peu. On ne peut pas ne pas l'être parce qu'on subit tous et toutes l'influence, la force. Là. C'est pesant, là, les dictats que les sociétés nous imposent. Oui, je le suis certainement un peu. Et puis, quand je dis j'ai écrit ce livre-là pour me faire du bien, c'est aussi pour moi, c'est à moi que j'ai botté le derrière, pour ne pas dire le cul. C'est à moi que je... Sûrement. Mais on peut, avoir un travers et le combattre et vouloir le combattre en société puis globalement. Mais je pense pas que je suis une âgiste avec un... je fais de l'âgiste avec un grand A, là, tu sais.
Non, effectivement. Mais quand même, quand tu as publié Les femmes vintage en 2010... On t'avait prévenu qu'il n'était pas question d'avoir dans le titre ou le sous-titre les mots vieille
oui,
ou vieillissement.
Oui.
Et vous l'avez accepté quand même.
Je l'ai accepté, mais c'est parce que ça faisait mon affaire. J'aimais mon titre que j'avais choisi, Les femmes vintage. Parce que dans vintage, il y a vieux, hein? Un vieux porto. C'est un vintage, là, tu sais. Ça veut dire vieux aussi. Tu vas me dire que c'était un euphémisme, édulcoré. Mais je trouvais ça beau, les femmes vintage. Je trouvais que ça voulait dire les femmes... Qui ont bien vieilli, qui ont du goût, qui ont de la saveur.
Mais en même temps, c'est
problématique. J'arrête pas d'accrocher le micro. Je parle avec mes mains.
En même temps, c'est un peu problématique qu'une maison d'édition en 2010 ait décidé d'escamoter les mots vieillir, vieux, vieille.
Non, mais c'est-à-dire qu'ils n'ont pas décidé. Ça s'est pas passé comme
d'accord.
Ça. Puis je dis pas ça pour les défendre, là. C'est sûr qu'une personne qui était pas carrément de la maison d'édition, mais qui était un expert en marketing, qui m'a dit un titre avec les mots vieux, vieille, ça marche pas. C'est déprimant. Puis tu vois, là, je l'ai... Mais si tu as remarqué, j'ai un mot qui est dynamique, j'ai vieillir, c'est actif, c'est pas vieillesse, c'est pas vieux, qui sont plus statiques. Mais ça, je l'ai choisi moi, parce que je voulais qu'il y ait cette idée que vieillir, c'est vivant. Donc, il fallait que je mette le verbe d'action, vieillir. Mais, tu disais il y a deux secondes, puis ça m'amène à une pensée. Souvent, quand on est vieux, qu'on vieillit, moi j'ai 73 ans, nous étions 7 enfants chez nous, nous sommes maintenant 3. Je pense que j'ai perdu 4 personnes, que je ne parle même pas de mes parents, que j'ai perdu dans la vingtaine. Mais donc, plus on vieillit, plus on vit des deuils réels comme ceux-là, très forts, comme celui de ta grand-mère sans doute. Des deuils qui font très mal. Et puis, à un moment donné, on regarde autour et on se dit, ma foi, je pense que... Au niveau des proches, là, pas dans l'ensemble, mais au niveau des proches, je pense que je connais, à mon âge, à l'âge que j'ai aujourd'hui, je connais autant de personnes qui sont mortes que de personnes qui sont vivantes parmi mes proches et famille et amis. Ça, c'est dur. C'est très, très dur. Par contre, ce que je réalise depuis quelque temps, puis qu'on ne pointe pas assez souvent, c'est vrai qu'il y a moins de monde qu'on a aimé puis qu'on aime autour de soi, parmi ceux qui ont accompagné, qu'on a côtoyé toute notre vie. Mais il y a des nouveaux.
Oui,
il y a des nouveaux amis.
Vieillesse, c'est aussi une découverte.
Oui,
voilà. Découverte de loisirs, découverte de nouvelles personnes.
Voilà.
Mais j'ai trouvé quand même, c'est ça, c'était quand même nuancé dans Vieillir avec Panache, mais vraiment, est-ce que tu penses que s'il n'y avait pas eu la pandémie, évidemment, est-ce que ce livre-là aurait pris encore plus de temps à voir le jour? J'imagine que oui.
Oui, il aurait été écrit plus lentement,
plus
sans
lentement,
doute.
Voilà.
Oui, il aurait été écrit plus lentement.
On sent une urgence oui. quand on le lit quand même.
Oui, oui, il a été écrit vraiment d'un grand jet, là. Je pense qu'il n'est pas mauvais pour autant. Au contraire, parfois, c'est la manière d'écrire. Hein. Il y a un autre livre que j'ai écrit très vite dans le temps, c'était « Full sexuel pour les ados », puis c'est un de mes meilleurs
un
livres.
Un énorme succès, voilà.
Oui, oui, puis c'est un bon livre aussi. Alors... Mais tu sais, par exemple, je regarde ma petite-fille qui est une adulte, je regarde mes arrière-petits-enfants, et je me dis, ça, c'est de l'amour. On n'est pas obligé d'avoir des arrière-petits-enfants, mais il y a toujours quelque chose qui se présente, un intérêt nouveau, que ce soit de pratiquer une sorte de métier un peu en dilettante pour le plaisir. Puis ça peut parfois être dans la création. Les vieux sont créatifs. C'est pas vrai qu'ils sont plus féconds. La fécondité, ça s'inscrit pas juste dans la biologie. La fécondité, ça s'inscrit dans l'art, dans des talents là, qui se découvrent. Alors voilà.
Tout prochainement, Vieillir avec Panache va être disponible sur le territoire européen.
Oui.
C'est quoi ton appréhension sur la réception en Europe? Parce que la pandémie a aussi ébranlé beaucoup les aînés, entre guillemets. Alors, c'est quoi ton appréhension? C'est quoi ta projection sur la réception du livre en Europe?
Ben, je sais déjà qu'il va être très bien reçu. Je le sais parce que j'ai déjà plein d'entrevues de bouquets pour parler comme on parle dans ce milieu-là. J'ai des intérêts qui se manifestent beaucoup, beaucoup. Alors, ça aussi, ça me fait me rendre compte que le livre est universel, finalement, en tout cas pour ce qui est de l'Occident. Et bon, c'est sûr que l'appréhension, il y a toujours la même petite appréhension avec l'Europe, c'est qu'ils sont très protectionnistes et il y a plusieurs livres sur la vieillesse qui sont sortis en même temps. C'est sûr que le fait qu'il y ait plusieurs livres écrits par des Français sur un thème proche, ça me fait un peu d'ombrage, mais c'est pas grave. Moi, je suis contente. Je me dis, bon, ben
on en parle.
Voilà. On en parle.
Mais en même temps, l'ensemble de tes publications ont été traduits en une vingtaine de langues,
ouais.
Mais pas l'anglais.
Pas l'anglais.
Pourquoi?
Je sais pas.
Jamais.
Je sais pas.
Aucun.
Non, beaucoup d'intérêt, beaucoup de tentatives de rapprochement avec mon éditeur, puis des éditions, des maisons d'édition anglophones. Et ça a toujours échoué. Je sais pas pourquoi. J'ai ma petite idée là-dessus. Je pense que j'ai un discours assez franc-parler, assez avant-gardiste. Puis je l'avais encore plus il y a 30 ans, là, tu sais, avec mes livres pour enfants. Mes livres pour enfants, c'est ma collection pour enfants qui a été traduite vraiment en une vingtaine de langues et pas en anglais. Et puis, à un moment donné, il y a eu un éditeur, une maison d'édition qui a été très, très intéressée et pour ce livre-là et pour cette collection-là et pour un livre qui s'appelle « L'histoire merveilleuse de la naissance ». Mais il voulait me faire changer toutes sortes d'affaires, puis j'ai pas voulu.
Adapté au public anglophone.
Adapté à des valeurs un petit peu plus...
Différentes.
Oui. Tu sais, puis des affaires, en tout cas pour ma part, complètement farfelues. Là, par exemple, dans l'histoire merveilleuse de la naissance, il y a un couple qui s'enlace. On parle de bébé, fait que forcément, il y a un couple qui s'enlace puis qui font l'amour. En tout cas, qui sont plus proches que proches, là, même si on voit pas... Et les corps sont de côté et la femme a une main sur les fesses de son amoureux, de son conjoint, de son mari, peu importe. Et il voulait que j'enlève la main de ses fesses. Il voulait qu'on enlève la main. Donc, il fallait pas qu'il y ait trop d'éléments de plaisir. Tu sais, quand je dis que le plaisir est encore tabou et suspect, alors moi, je dis... J'ai complètement farfelu. C'est moi qui ai demandé à mon illustrateur, qui était Gilles Thibault à l'époque, d'y mettre la main... sur la fesse pour qu'on sente...
Et là, on voulait déformer
ben oui, fait que moi,
même.
Ça déforme ma pensée, ma philosophie, mon éditorial, finalement. Alors, donc, il y a eu une fois comme ça, là, où... une fois ou deux, où on voulait me faire changer des choses. Il y a des choses que j'aurais accepté, peut-être, de changer. Tu sais, je l'ai faite, d'ailleurs, quand on était publié en japonais, pour l'histoire, cette même livre-là, les petits bonhommes ont été... on a fait les yeux bridés, c'est évident, là, tu sais, on a changé des trucs, mais ça me convenait très, très bien. Mais non, pas quelque chose qui changerait vraiment le cœur de ma pensée. Ça, c'est de la prostitution.
Donc, c'est pour ça que tu n'es jamais allé de l'avant, parce qu'il y aurait eu des possibilités, mais évidemment, avec toutes ces demandes de changement-là, ça n'a pas été possible.
Non, ça n'a pas été possible. Puis peut-être que pour certains autres livres. Puis il y a beaucoup d'intérêt. Je travaille avec le Canada anglais souvent. Je leur parle, je fais des entrevues. Ils se nourrissent de mes livres. Ils attendent en anglais, mais je ne sais pas ce qui se passe. C'est comme si les éditeurs ont. On n'a pas la même mentalité, hein? Moi, la culture anglo-saxonne, les valeurs anglo-saxonnes ne sont pas du tout les mêmes que celles de notre culture franco-française, là, latine.
Jocelyne Robert, tu me disais que après Vieillir avec panache, tu avais besoin d'un bon repos.
Oui.
Ça a été prenant, et beaucoup d'entrevues et tout. Éventuellement, après ce repos bien mérité, sur quoi tu voudrais écrire après avoir écrit sur les enfants, sur les jeunes, sur les vieux?
J'ai aucune idée. Mais vraiment, là. Vraiment, pour l'instant, c'est comme si j'étais encore dans un air d'aller. Puis il faut dire que j'entre en promotion en Europe, là. Fait que tu sais, je suis encore beaucoup dans Vieillir avec panache. J'ai une entrevue lundi, après-demain, là, une grosse entrevue avec la Suisse. J'avais quelque chose avec Paris il y a quelques jours, parce qu'il y a des entrevues qui sont faites et qui vont être publicisées plus tard, parce que le livre n'est pas sorti encore. C'est le 20.
Donc, aucune idée encore sur un éventuel
mais,
projet
mais
de
vraiment,
futur.
Vraiment pas. Non, vraiment
parce
pas.
Parce que tu sais, on avait la question de l'âgisme des vieux et des vieilles que tu avais depuis plus d'une dizaine d'années, mais
oui.
Là, pour l'instant, donc il n'y a pas
non,
de projet
je,
comme
là,
tel
je suis
qui
comme
sont
définis. Le, c'est peut-être le fait de l'âge, je suis comme
peut-être,
dans le
ouais.
moment présent.
Peut-être.
Je suis totalement
puis
dans le moment
donné,
présent.
Peut-être qu'il y aura
voilà.
une envie d'écrire
exactement.
Sur un sujet.
Dans... Puis moi, je suis quelqu'un qui habite, hein, j'habite quelque chose, là, je le porte longtemps, je suis vraiment comme une grossesse symbolique, là. Je le porte, je le porte, je le porte, puis tout à coup, quand vient le temps de l'écrire, souvent ça s'écrit presque d'un jet.
Donc, le samedi, le 18 septembre à 19h, tu vas donner une conférence chez nous
oui.
Dans le cadre du Salon des aînés de Saint-Jérôme. Est-ce que ce sera la première conférence déclinée de Vieillir avec panache?
Oui, il y en a une là qui était dans une bibliothèque qui s'appelle Vieillir. Ils ont ajouté panache, évidemment, parce que mon livre est dans l'air du temps. J'avais accepté cette conférence-là avant, mais c'était Vieillir avec désinvolture, je pense. Puis là, ils ont ajouté et avec panache. Mais je comprends l'idée, là. Tu sais, le livre, il n'était pas sorti, le livre, quand j'ai accepté ce contrat-là. Mais oui, je pense que ça va être je pense pas. Pour l'instant, là, moi qui ai un changement, ce qui me disponnerait parce que je prends mon été de repos, ça va être la première vraie conférence qui va coller vraiment chapitre par chapitre à ce livre-là.
Hey, dans Vieillir avec panache, que j'invite les gens à lire avec grand intérêt, tu demandes à les gens, en fait, tu invites les gens à t'écrire.
Oui.
Donc, adresse électronique JO pour Jocelyne, donc jo@jocelynerobert.com.
Oui.
Ton site internet jocelynerobert.com. On peut aussi te rejoindre sur ta page
Facebook
et
Twitter.
Évidemment sur Twitter. Puis je pense que tu es très à l'affût des gens qui t'écrivent.
C'est tellement important parce que, tu sais, sans pandémie, on rencontre les gens avec la pandémie, moi, le pouls des gens, je l'ai vraiment par courriel, puis par texto, puis par message comme ça.
Donc, je rappelle, conférence Vieillir avec panache le samedi 18 septembre à 19h. Ce sera une formule hybride avec public et en mode virtuel au www.salondesaînés.ca. Jocelyne Robert, merci infiniment pour ce précieux grand entretien. Merci beaucoup.
C'était un plaisir parce que si ça n'avait pas été un plaisir, je n'aurais pas été là.
Effectivement. Merci, Jocelyne Robert.
Merci, Guillaume.
C'est ce qui m'est fait à cette grande série des grands entretiens du Salon des aînés de Saint-Jérôme. On se dit à tout bientôt. Au revoir.
Le balado Les grands entretiens du Salon des aînés de Saint-Jérôme vous a été présenté par les sentiers Magnus Poirier et par Station 7.ca.